Page sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous, au micro Elisabeth Couget,
Yves Bastide.
Pour vous présenter notre émission d'aujourd'hui, en général nous parlons des ouvrages récents, mais aujourd'hui nous allons tourner les pages d'une œuvre d'Émile Zola écrite il y a environ 130 ans. Il s'agit d'Au bonheur des dames. Moi je trouve que c'est un de ses romans les plus modernes. Qu'est-ce que tu en penses Yves ?
C'est-à-dire qu'une chose qui m'a frappé quand je l'ai relu justement pour cette émission, je trouve que c'est un livre qui pratiquement, en changeant quelques termes, en mettant un ou deux mots anglais pour faire dans le vent, c'est une œuvre qui aurait pu être écrite il y a 2 ans ou même qui aurait pu être écrite dans 2 ans.
Par moment, j'avais l'impression de, puisque on est à Paris, j'avais l'impression que nous sommes dans le Paris du XXIe siècle et pas en 1870, 80 ou 50 même, je crois.
1883, exactement.
Voilà, c'est ça, voilà. Exactement. Donc, effectivement, c'est un livre extrêmement moderne. Et pourquoi on a trouvé ça si moderne par le langage aussi, déjà.
Par le langage, je trouve que par le langage et surtout par une qualité qui me paraît distinguer Zola de certains autres écrivains, par le mouvement.
Par le mouvement.
Émile Zola, quand il écrit, il donne à ses pages, à ses descriptions notamment, un mouvement et un souffle que n'ont pas forcément d'autres écrivains de la même époque. Ni même d'aujourd'hui d'ailleurs.
Effectivement. Je pense que ça peut être son côté journaliste qui... Je ne veux pas te flatter, mais voilà. Donc, c'est son côté journaliste, je crois, qui a beaucoup aidé, qui devient aussi facilement
Je trouve que c'est bien quand on lit un livre, quand on lit des pages et qu'on a l'impression qu'il y a du souffle, qu'il y a une vie, qu'il y a quelque chose, voilà. Surtout dans Au bonheur des dames, puisque Au bonheur des dames, on ne l'a pas précisé, c'est quand même l'histoire d'un grand magasin d'articles pour dames, pour femmes. Et donc, il y a un souffle, une vie qu'on retrouve peut-être chez Zola dans Le ventre de Paris, mais bon, ça, c'est une autre chose.
Tous ces romans dont on parlera, mais en particulier des Bonheurs de Dames. Mais je crois qu'on pourra peut-être parler un petit peu de l'écrivain. On sait peut-être, tout le monde ne sait pas forcément. Il est né en 1840, ça on connaissait, mais qu'il était d'un père italien, puisque Zola, effectivement, c'est italien. C'était un ingénieur italien et qui a travaillé sur différentes constructions. En particulier, il a participé à la construction du canal qu'on appelle maintenant le canal Zola en Aix-en-Provence. Mais auparavant, il a travaillé en Russie. Et donc, il a travaillé à Saint-Pétersbourg et différents canaux de la Neva sont ses œuvres. C'est lui qui les a fabriqués. Alors, Zola, à 18 ans, s'installe à Paris, puisque son père va mourir, malheureusement, assez jeune et assez tôt. Et à ce moment-là, Zola va se retrouver en tant que journaliste. On y arrive quand même, mais dans des conditions, il vit dans des conditions assez difficiles, puisque très désargenté. Et je pense que une chose qui est assez amusante, c'est encore un homme qui deviendra aujourd'hui aussi encore célèbre. Il n'a pas eu son baccalauréat. C'est assez drôle.
Oui, c'est bien pas une chose à dire pour les auditeurs qui auraient des enfants ou qui présenteraient le baccalauréat. Il vaut mieux avoir le bac quand même aujourd'hui.
Je crois que c'est pas mal de l'avoir, mais bon, Zola ne l'a jamais eu.
Aujourd'hui, je pense que quand même, c'est un peu indispensable. Mais bon, c'est un autre problème. Revenons à Zola.
Il était c'est un Provençal. Il était ami de Cézanne. Et plus tard, il va se retrouver à Paris en tant que journaliste, ami de tous ces peintres, des impressionnistes, qui lui serviront aussi de modèle pour un de ses œuvres. Plus tard, toujours dans son grand ensemble qu'on pourrait appeler un saga des Rougon-Macquart. Alors, je voulais encore dire quelque chose qui est assez amusant pour moi, c'est qu'il n'est devenu véritablement français qu'à 22 ans, en 1865. Il est naturalisé français à ce moment-là. Il commence à être publié et c'est seulement en 1868, mais encore relativement jeune, à 28 ans, qu'il va commencer à écrire ce qu'on appelle l'histoire naturelle et sociétale d'une famille sous le Second Empire. Et voilà, on arrive au Rougon-Macquart.
Et les Rougon-Macquart, en précisant que Au bonheur des dames est un des romans de cette saga.
Absolument.
De la famille des Rougon-Macquart.
C'est
puisque
ça.
Le personnage principal de Au bonheur des dames, Octave Mouret, est un Rougon-Macquart.
Un Rougon-Macquart, voilà.
C'est assez compliqué à expliquer, mais il est un Rougon-Macquart.
Exactement. Alors, on ne peut ne pas parler de l'affaire Dreyfus et de l'Aurore quand on parle de Zola. Donc, en 1894, il y a l'affaire Dreyfus, et par la même occasion, Zola qui va prendre parti pour cet homme maltraité, et la France xénophobe se réveille. Et l'écrit « Signor Emilio Zola » ou bien « Hors de France, à Venise, l'Italien », voilà le genre des choses qu'il a pu entendre, ce pauvre homme. Voilà, alors on sait que tout ça a été ensuite, ça s'est arrangé pour lui, mais il a été en prison, il a dû aller à l'étranger. Et puis, voilà, il a dû rendre même sa Légion d'honneur. Donc, voilà, c'était assez vilaine comme période et comme histoire. Il va se remettre à écrire et malheureusement, il meurt assez tôt, à 62 ans. Il meurt asphyxié. On s'est toujours posé la question si quelqu'un a bouché la cheminée de sa chambre ou comment ça se fait qu'il a fini aussi mal, le pauvre.
D'après les dernières recherches, une des personnes qui a travaillé dans leur maison de Meudon, dans la maison des Zola, a reconnu que c'était lui qui avait bouché le tuyau d'aération qui expliquerait l'asphyxie des époux,
voilà, c'est
Zola.
Ça. Exactement. Bon.
On va dire qu'il y a prescription.
Zola en est mort, sa femme a survécu. Mais en attendant, il a eu le temps d'écrire toutes ces magnifiques œuvres dont nous allons parler encore tout à l'heure, mais malheureusement, le temps passe. Petite pause musicale, écoutons Verdi, Maria Callas, La Tosca, voilà, vous allez vous régaler. On reprend notre émission Tourne-Page pour parler au bonheur des dames d'Émile Zola avec Yves Bastide. Alors Yves, tu as choisi un petit extrait de l'écriture de Zola qui nous amène vraiment dans le vif du sujet.
Oui, parce que Au bonheur des dames, c'est un problème très actuel. C'est la lutte des grands magasins pour s'imposer face aux magasins traditionnels. Et Dieu sait si le problème est d'actualité. Je voudrais vous lire un passage du livre Au bonheur des dames. C'est une inauguration Au bonheur des dames. Depuis le matin, la cohue augmentait. Aucun magasin n'avait encore remué la ville d'un tel fracas de publicité. Maintenant, le Bonheur dépensait chaque année près de 600 000 francs en affiches, en annonces, en appels de toutes sortes. Le nombre des catalogues envoyés allait à 400 000. On déchiquetait plus de 100 000 francs d'étoffes pour les échantillons. C'était l'envahissement définitif des journaux, des murs, des oreilles du public, comme une monstrueuse trompette d'airain qui, sans relâche, soufflait aux quatre coins de la terre le vacarme des grandes mises en vente. Et désormais, cette façade devant laquelle on s'écrasait devenait la réclame vivante avec son luxe bariolé et doré de bazar, sa vitrine large à y exposer le poème entier des vêtements de la femme, ses enseignes prodiguées, peintes, gravées, taillées, depuis les plaques de marbre du rez-de-chaussée jusqu'aux feuilles de tôle arrondies en arc au-dessus des toits, déroulant l'or de leurs banderoles et où le nom de la maison se lisait en lettres couleur du temps, découpé sur le bleu de l'air.
Et ben voilà un extrait, je crois, qui nous a donné déjà une image complète de ce magasin qui rendait fous les petits commerçants aux environs avant de disparaître malheureusement les uns derrière les autres. Mais il faut dire que le roman est l'hymne à l'esprit d'entreprise de l'homme et aussi l'hymne adressé à la femme qui apparaît dans ce livre comme la reine de ces grands magasins.
Reine avec une petite nuance, parce que si on regarde ce que disent, notamment ce que dit Octave Mouret, le patron du magasin, en fait, la femme, c'est la reine, mais on s'en sert.
Oui,
il a servi, il la captive, il la fascine, il l'hypnotise.
Ouais.
Et d'ailleurs, la première fois où on voit apparaître Octave Mouret dans l'œuvre d'Émile Zola, c'est dans le roman qui précède Peau-bouille,
voilà.
Où on montre comment il est arrivé à séduire la propriétaire du magasin, à l'épouser, et une fois qu'il a eu épousé, à développer le magasin. En fait, la femme est la reine, mais une reine dont les hommes se servent. Ouais. Ce n'est pas très, très, très
pas
féministe.
Très joli tout ça, effectivement. Alors, Octave Mouret, dont on va voir au cours des pages, que cet homme qui, au début, il avait l'air d'un aventurier commercial, il deviendra presque humain grâce à une femme, Denise, qu'il ne faut pas oublier, puisqu'elle est vraiment l'héroïne archi-présente dans ce livre-là.
Et je trouve que Denise est beaucoup plus importante dans le roman qu'Octave. Parce qu'Octave, c'est l'homme d'affaires, il fonce, il est prêt à tout risquer pour que son magasin se développe.
Ouais.
Et Denise, qui est elle-même la nièce d'un petit commerçant, arrive à l'apprivoiser par sa douceur, par sa présence discrète, jusqu'au moment où Octave, devenu veuf, la demande en mariage et le roman s'achève sur
un happy end, voilà. Mais il ne faut pas oublier que Denise a tout fait pour, on voit le côté social, c'est grâce à elle que ce magasin où les petites demoiselles habitent en haut sous les toits, des jeunes dînent, ils habitent là, c'est leur vie, elle ne quitte pas cet endroit-là. Hein. Et elle va créer une crèche, elle va créer des endroits où ils peuvent lire, où ils peuvent se détendre. Donc je crois que c'est au point de vue social, c'est extrêmement important. Et ce serait digne d'aujourd'hui, hein, sans problème.
Tout à fait.
Bon, bah, je crois que malheureusement, notre temps passe. C'est toujours pareil. On a du mal. Je crois qu'il faudrait faire une émission un peu plus longue. Voilà. Alors donc, je crois qu'on va vous dire au revoir.
Au revoir. Et surtout,
lisez Au bonheur des dames.
Lisez Au bonheur des dames.
Et vous allez voir, vous penserez dorénavant à cette Denise quand vous irez dans les grands magasins de Paris.
Voilà.
Au revoir, à bientôt.
À bientôt. Il giorno muoia, se prendeva, ne ritrovi.